Oui, salut Daniel, écoute, c'est Eric, là, petit maire délégué de la petite commune de Gouzounia. Bah écoute, on est en train de mettre le cochon dans le maïs, à Guéret en Creuse. Il est 15h, il y a un monde fou, bon, malgré la neige. Il y a du recul un peu de monde quand même. Je pense qu'on est au moins peut-être près de 10 000 personnes, avec des banderoles de tous les côtés pour défendre les services publics en Creuse. Et si tu peux passer ce message, ça serait sympa, merci. Allez, à plus.
Salut Daniel, salut l'équipe, c'est Pascal, dans la Creuse, je suis à Creusois, je marche dans la rue de Guéret, et il neige à plein temps, une vraie tempête de neige, et pourtant il y a des tas de gens là, ils sont là avec des drapeaux de toutes les couleurs, ils sont apparemment super motivés, ben, tu vois, je te dis qu'aujourd'hui si on est tous descendus dans la rue ici à Guéret, c'est que vraiment il y a besoin quoi, si on se retrouve là avec la tempête de neige autour, avec des conditions météo extrêmes, c'est que vraiment, putain, il faut comprendre maintenant, c'est qu'il y a vraiment besoin qu'on fasse attention à nous. On est des espèces de parias de la France, là. On est comme des cons, on est à 300 bornes de Paris, on n'existe pas pour personne. Alors que si tu voyais dans la rue, là, c'est des milliers de jeunes, c'est des... Bon, c'est magnifique, alors voilà. Écoutez tous les Français, là, écoutez un peu. Écoutez. Voilà, on est dans la Creuse. C'est très mauvais, mais on peut vivre.
Bonjour, oui, j'ai un message enregistré de Jean-Paul à vous transmettre. Je vous mets la cassette.
Bonjour, 2000 ans que vous êtes otage des religions. Ne vous oubliez pas. Amen.
Voilà, merci Jean-Paul. Merci Daniel. À bientôt. C'était Loul, le Mérou.
Salut, c'est Elisabeth Dumas. Eh bien, depuis le temps que j'attendais cette émission sur la psychiatrie, la voilà enfin. Et elle est à ma foi le reflet de ce qu'on vit, de ce qu'on voit dans ces institutions, avec le pire et le meilleur, et toutes ces représentations populaires et aussi les représentations de nos scientifiques et de nos soignants. Toute une diversité d'images qu'il faut pouvoir faire défiler devant ses yeux et dans sa mémoire. Elle est l'institution psy, elle est le reflet de notre société avec ses contradictions, avec ses mensonges. Merci encore, Daniel. À bientôt.
Les portes dans les hôpitaux sont toujours grinçantes. C'est voulu, je ne sais pourquoi. Mais ce que je sais, c'est pour maintenir les gens dans leur désespoir. François du Jura.
Salut Daniel, salut l'équipe, c'est Thierry, Julien là. Je voulais juste vous dire merci pour ces deux belles émissions sur la psychiatrie et merci à Simone qui est quelqu'un visiblement de debout. Allez, ciao, merci.
Merci pour vos merci et pardon surtout à tous ceux. Mais alors je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, ça va être la neige. Vous étiez coincé chez vous et vous avez sauté sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Et vous avez laissé des messages nombreux et très très intéressants. Et alors on est très embêtés parce qu'évidemment il y en a beaucoup trop et on se dit oh là là, ceux qui attendent de s'entendre dans le poste et tout ça, ils vont être déçus. Bah oui, mais pardon à tous. Beaucoup de messages évidemment sur les deux émissions de jeudi et vendredi, sur la psychiatrie, sur le service psychiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille où Olivia a passé une nuit avec les uns et les autres, les uns c'est les soignants et les autres c'est les soignés, et on était un peu inquiets jeudi, on s'est dit oulala, il y avait des mécontents, on s'est fait engueuler tout ça, et puis vendredi non, finalement voilà, on a réussi en deux, il nous a fallu deux coups pour je crois peindre à peu près ce qu'est le quotidien de ceux qu'on a appelés les garde-fous, c'est-à-dire les infirmiers psychiatriques. Et tout le monde a compris qu'en disant les garde-fous, évidemment, il y avait un clin d'œil, comme lorsque nous disons, évidemment, les fous, il n'y a aucun mépris. Je crois que tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, troisième volet de cette série, on va aller à Bordeaux. Avec un psychiatre qui s'appelle Le Masson et Michel Lemasson, et qui lui y croit toujours, c'est-à-dire que il dirige une association qui s'appelle Assaïs, qui est une association d'aide à l'insertion, qui a été créée en 1982 à l'initiative de professionnels du monde sanitaire avec le soutien de l'État et des collectivités locales, c'est pas un truc privé, et il y croit toujours, et on va voir comment ça marche, en quoi est-ce qu'il donne raison à ce psychiatre qui disait « Plus il y a d'hommes, moins il y a de murs ». C'est notre thème d'aujourd'hui. Après les messages que voici, je rappelle le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, merci pour ton émission sur la folie. Tu vois, moi j'ai mon frère qui est schizophrène, qui a sombré perdu la raison, qui a été hospitalisé à Paul Guéraud dans un lieu absolument incroyable, un service où on accède par un escalier de secours, genre film américain. On rentre dans une pièce sale, enfumée, qui fait à peine 10 mètres carrés. Et là, on attend qu'on veuille bien nous accueillir. Ensuite, on s'assoit dans des fauteuils éventrés. Il n'y a rien, il n'y a personne, c'est le silence. On entend une petite porte au bout. Et puis finalement, notre malade arrive. Et pour parler avec lui, on n'a aucun espace, rien. Le silence, on n'a aucune intimité. Et puis, il faut donc sortir. Et puis, on se fait agresser. Et puis, tout le monde attend, là, de pouvoir rencontrer le membre de sa famille. Et puis, quand on veut parler au médecin, il refuse de dialoguer avec les familles parce que il ne faut surtout pas que les familles interfèrent dans les soins. Et c'est terrible parce que c'est aussi les familles qui souffrent beaucoup. Moi, je souffre de la maladie de mon frère, de ses crises de folie, de ses moments terribles. Mais je n'ai personne pour m'aider, en tout cas pas les deux médecins qui s'occupent de lui. Et tu vois, dans cet endroit où j'étais allé une fois, eh bien, mon frère avait une chambre, il n'y avait pas de tête d'oreiller, les draps étaient sales, les couvertures déchirées, sa chambre ouvrait sur une petite pièce où tout le monde, où tous les autres malades mangeaient, buvaient, discutaient, jouaient, s'amusaient, où ils recevaient leurs soins et tout, pas la moindre intimité, pas le moindre respect de la souffrance du malade, mais encore moins du respect de la souffrance des familles. Et c'est très dur à vivre. Et puis j'ai écrit, ils ne m'ont jamais répondu. Je leur ai demandé de l'aide, ils ne m'ont jamais aidé. Je demande de l'aide pour aider mon frère, bien sûr, pour aider à lui donner un chemin. Alors on lui donne des médicaments. Merci en tout cas, Daniel, pour toutes tes émissions.
Bonjour à toute l'équipe. J'ai été infirmier psy dans les années 60-70, dans 4 établissements publics et privés. J'ai connu l'asile. Le directeur d'alors se vantait d'avoir le prix de journée le plus bas de France. Je vous cite deux faits parmi d'autres pour vous montrer comment il parvenait à cet exploit. Dans un des pavillons où j'ai travaillé, une vingtaine d'hommes internés à vie triaient toute la journée, 7 jours sur 7, dans les poubelles de l'hôpital, ce qui était bon pour les 500 cochons engraissés et tués chaque année à l'hôpital pour nourrir les patients. Un dortoir aux fenêtres verrouillées leur était réservé. Ils avaient droit à 2 douches par mois. Nous mettions leurs draps sales directement à la poubelle, tellement ils étaient irrécupérables. À 18h, nous disions « Voilà les cochons qui reviennent du boulot ». Et on se bouchait les narines. L'autre fait, d'autres malades travaillaient toute la journée dans l'hôpital sur des machines extrêmement bruyantes et trépidantes à faire des parpaings qui étaient revendus à bon prix à des entreprises du bâtiment. Tous ces travailleurs, dits fous, étaient payés de la valeur de 1 à 5 timbres par jour, selon leur rendement. J'ai mal quand j'entends le mot « fou », même à votre émission, car pour moi, ce sont des centaines, voire des milliers de visages humains et souffrants que j'ai connus qui sont derrière ce mot.
Oui, Bernard. Écoutez, moi j'ai écouté l'émission effectivement sur la psychiatrie et ça colle vraiment à la réalité. J'ai travaillé 10 ans et simplement pour dire qu'à Pau, ils ont trouvé la solution. Hein. Ils ont mis des caméras. Voilà, la solution. N'importe quoi, ça continue. Merci Daniel.
ainsi, artificiellement, la mort. La médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néant qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps. En fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ?
Salut, c'est Daniel Mermel, à Basse, j'y suis avec Olivia Gesbert. Une autre psychiatrie est possible.
Flight number 2, arriving from New York.
Monsieur Michel Foucault a écrit aux éditions Plomb un livre intitulé « Folie et déraison, histoire de la folie à l'âge classique ». Monsieur Foucault, je pense que tout le monde s'imaginait que la folie n'avait pas d'âge et surtout pas d'âge classique.
Il m'a semblé justement que la folie était un phénomène de civilisation aussi variable, aussi flottant que n'importe quel autre phénomène de culture. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est précisément sur le fait que soigner le fou n'est pas la seule réaction possible au phénomène de la folie.
31 mai 61.
Ça représente précisément un tournant. Avant le XVIIe siècle, en tout cas jusqu'au début du XVIIe, jusqu'à l'âge baroque à peu près, le fou a eu une existence entièrement libre. Il était en quelque sorte à la surface de la culture et il y vivait d'une présence extraordinairement visible. Il y avait des fêtes de fous, il y avait tout un théâtre qui était consacré à la folie. Le fou lui-même avait une place dans la littérature. Il y avait une iconographie de la folie, c'est Jérôme Bosch, c'est Bruegel également. Et c'est au XVIIe siècle, quand les normes économiques de la vie ont changé, à l'époque du mercantilisme, eh bien le fou, personnage oisif, personnage qui dépensait de l'argent et qui ne rapportait rien, eh bien le fou est devenu terriblement encombrant. Et la sensibilité sociale à la folie a changé en fonction, me semble-t-il, de ces phénomènes économiques.
Oui, vous avez raison, on peut faire une comparaison et un rapprochement avec notre époque, entre ce que disait Michel Foucault en 1961 et nos jours, évidemment, le mot mercantilisme, le mot archi-profit, délire, délirant, de la course obstinée, monomaniaque au profit. Pourquoi est-ce que, puisqu'on est, on accomplit ce formidable bond en arrière, eh bien, le fou, lui aussi, ne l'accomplirait-il pas, puisque, décidément, la folie est un miroir du temps, un miroir de la société, un miroir de la civilisation. Alors, eh bien, le fou est au placard, à l'armoire, dans l'armoire, une armoire à pharmacie, beurré de médicaments, dans une camisole chimique, qu'on dit beaucoup plus douce que jadis, mais en tout cas, il est traité, il est calibré, il est repéré, il est géré. Surtout, surtout, on ne le voit pas. Il y a quand même des obstinés qui sont restés fidèles à ce que Foucault racontait dans son histoire de la folie et les conclusions qu'il tirait des conclusions, politique. La psychiatrie est une question politique. Ceux qui sont restés fidèles à ces années 70, début des années 70, on s'est posé 1000 questions sur la place de la folie dans notre société, la psychiatrie. Et comment s'en approcher, comment faire face. Qui sommes-nous, les normaux, par rapport aux anormaux? Quelle est la lisière, quelle est la frontière, et comment on peut rapatrier, alléger cette souffrance? Serena parlait de ces gens qu'elle voit arriver la nuit dans son service psychiatrique de l'hôpital de la Timone, et qu'elle comparait avec des gens qui portent des pierres, des sacs à dos pleins de pierres. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger un peu? Des médicaments, oui, pourquoi pas, ça peut parfois alléger, mais c'est pas une solution. Quelle est la solution? On ne sait pas. Mais on essaye. Et c'est ce que font ces hommes, ces femmes de cette association de Bordeaux, ASAIS, association d'aide à l'insertion. Une association créée en 1982, je l'ai dit, et qui se réfère à Icare, qui dépend d'Icare. Icare, celui qui avait voulu se frotter au soleil, qui avait voulu monter dans l'azur avec des ailes qu'il s'était bricolées. Et on connaît la suite, on sait comment le soleil fit fondre la colle de ses ailes et comment Icare s'est enfoncé dans les flots, dans un coin du paysage. Nous revoilà à Bruegel, alors que tout était si normal. Le paysan travaille, creuse ses sillons, la vie est tout à fait normale et il y a un crétin dans un coin qui se noie dans le paysage. C'est Icare. Aujourd'hui, toute la place est à ce crétin. Notre frère à tous.
Y'a dans ma tête plus que dans mon cou. Tout un tas d'idées bien tordues. Comment c'est trop long face à face où même le miroir se glace et que le reflet se croit perdu. Y'a dans ma tête plus que dans mon cul. Des envies neuves de jamais vues. Mais pour pouvoir briser la glace, faudrait déjà changer de face. T'es pas gagné, juste perdu. Y'a dans ma tête,
y'a dans mon cul,
le corps d'une star des plus charnues. Envie de changer cette carapace contre un modèle bien plus joufflu.
Contre un modèle bien plus menu.
Y'a dans ma tête, voire dans mon cul, du désespoir, la cause perdue. Mais quand la tristesse me gagne et que le cafard se met à table, je lui dis tout net, parle à mon cul.
Michel Lemasson, psychiatre et de formation psychanalytique. Je suis un des membres fondateurs d'ASAIS il y a 22 ans maintenant. J'ai travaillé à plein temps depuis 3 ans. Je suis toujours praticien hospitalier, je suis en situation de mise à disposition de l'hôpital à l'association. On a affaire à des gens qui sont largués. Ils cumulent à la fois des problèmes de société, des problèmes sociaux, de professionnels, logement, isolement, beaucoup de l'isolement, des problèmes de santé. Nous, on a dit qu'il était inutile de savoir si c'était des problèmes de santé qui créaient des problèmes sociaux ou si c'était des problèmes de sociaux qui créaient des problèmes de santé. C'est une question qui nous paraît un peu superflue. On a affaire à des gens qui cumulent ces deux types de difficultés. Nous, on y repère une troisième type de difficulté qui est un problème culturel, problème d'acculturation. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont en échec d'héritage, qui ont des histoires familiales, scolaires, fracassées, fracassantes, plus de lieu d'affiliation, d'espèce d'affiliation, de... ça ne sait plus à quoi appartenir. Donc on associe dans ce projet quelque chose de l'ordre du social, quelque chose de l'ordre de la santé mentale et quelque chose de la culture. Là, on a affaire à des gens qui n'appartiennent plus à aucun groupe et qui se raccrochent souvent avec désespoir à des espèces d'identités de secours qui sont, moi qui me hérisse, qui sont érémistes, handicapés, alcooliques, toxicomanes, etc. Ce qui fait que leur devenir pourrait être celle d'anciens alcooliques, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ces gens-là que vous appelez des...
Des ninis? Oui, parce qu'ils sont vécus, regardés comme ni tout à fait malades, ou plus tout à fait malades, bon, etc. Bon, renvoyés vers un secteur social qui, bon, dit, ah, mais ils sont trop pas bien pour, s'intégrer dans les dispositifs sociaux. Bon, ils sont ninis, ils sont entre les deux. C'est les deux. Plus, on dit, c'est les trois, avec l'aspect culturel.
Je m'appelle Marie-Edith. Mais j'étais chez moi, tranquillement, dans un studio à Paris, et j'ai commencé à pas payer mon loyer à la suite de d'idées qui me sont venues. J'en avais assez, j'en avais marre. J'ai été expulsée, je me suis pas défendue. Je me suis retrouvée, j'avais un peu d'argent. Alors, au début, j'étais dans des hôtels, j'essayais de louer quelque chose. Mais c'était très compliqué parce que j'y arrivais pas. Puis finalement, je me suis retrouvée sans argent parce qu'au bout d'un certain temps, l'argent, on l'a dépensé. J'ai atterri à Bordeaux, je me suis retrouvée à demander à aller aux toilettes d'un médecin du monde. Et le médecin du monde m'a dit, mais vous êtes bien, vous n'allez pas rester là, on va vous emmener à l'hôpital. Mais pour passer la nuit, parce que mon compte était débloqué le lendemain. Et puis finalement, de l'hôpital, je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Donc je ne suis pas restée très longtemps, enfin quelques semaines, quelques mois, et il fallait bien sortir. Et donc se reposer le problème du logement. Avec une petite retraite, une petite pension d'invalidité, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai cherché des foyers d'abord pour sortir. Et il y avait ce foyer à Zaïs. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte ce jour-là, comment j'étais à la suite de la mort de mon père. Il y avait eu aussi, il y a quelque chose qui a déclenché, ça va vous paraître bizarre, c'est les événements du 11 septembre 2001. Ça m'a, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que je fais chez moi? C'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Non, oui, dépression. Oui, je pense que j'avais une succession difficile, des problèmes de famille, enfin, très seule et avec des situations conflictuelles énormes. J'étais fonctionnaire, je travaillais. Si on n'est plus opérationnel en vieillissant, si on n'est pas, si on s'adapte pas aux nouvelles méthodes, si on est dépassé par les jeunes, on est très facilement mis à l'écart. Oh ben, l'informatique, je m'y suis pas mise suffisamment bien et j'étais dépassée. Et puis bon, j'ai eu des arrêts de maladie aussi qui ont fait que ça n'encourageait pas à me faire confiance, quoi. Faut être performant, faut être rentable. Si vous êtes pas rentable, on prend quelqu'un d'autre. Et si vous manquez, si vous pouvez pas assurer, là, je pouvais pas assurer mon travail, on vous élimine. Quand on manque, on n'est pas utile, hein. Quand on manque, on est vite remplacé, oui. Et puis après, quand on voit que vous vous réadaptez pas suffisamment vite, on dit bon, bah, ça va plus, puis voilà, c'est tout.
Qu'est-ce qui va pas, d'après vous? Qu'est-ce qu'elle a, Edith? C'est du quoi? C'est du médical? C'est du social? C'est de l'identitaire? C'est de la culture? Allez savoir. Qui peut dire ce qu'elle a? Qu'est-ce qui va pas? Ça, c'est pas un cas à part, hein, Edith. C'est pas un Frankenstein social. Beaucoup se ressemblent dans Edith, là. On lui ressemble beaucoup. Je citais des chiffres qui ont fait dresser des oreilles d'auditeurs sur le répondeur de la base où j'y suis, mais ce sont des chiffres tout à fait solides. 1 150 000 Français ont consulté au moins une fois dans l'un des 830 secteurs de psychiatrie générale en l'an 2000. Hein, 12 500 psychiatres en France, et je rappelle le chiffre de 15% de la population française qui présente des troubles mentaux de gravité inégale. Il y a un auditeur qui nous a laissé un message, on n'a pas eu le temps de les passer tous aujourd'hui, c'est demain, qui dit « Ah tiens, vous me faites découvrir un mot nouveau, sociopathe ». C'est un mot qu'effectivement qui a été employé dans le reportage à Marseille, et il ajoute « Je ne savais pas que j'étais sociopathe ». je ne savais pas que j'étais un sociopathe. Et en effet, voilà, des difficultés dans la vie mêlées à des tas de choses très difficiles, encore une fois, à analyser, surtout par soi-même, ont fait que je me retrouve, je fais partie des cabossés, je fais partie des, et voilà, j'essaye de m'en sortir, etc. Et c'est ce à quoi, on peut dire à bras le corps, à bras l'âme, on pourrait dire, s'échine des gens comme Michel Lemasson.
Vous m'avez dit aussi à un moment que dans la psychiatrie, aujourd'hui, la subjectivité fait des ordres. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais que les choses sont plus basées sur l'histoire du sujet, sur l'histoire d'une personne, mais non que cette personne est regardée comme rentrant dans un groupe ou ne rentrant pas. On ne peut pas s'arrêter une question de santé qui est limitée aux questions des signes, savoir si ça relève de tel ou tel diagnostic, etc. La personne, elle est d'abord comme elle est, et il faut faire avec cette personne, avec cette subjectivité, cette complexité subjective, et non pas suivre une démarche très scientifique qui a cours actuellement depuis 15 ou 20 ans, et qui tente à massifier, à identifier des groupes très généraux, de tel type de diagnostic. Et on a des tas de gens qui ne correspondent pas à ça, ils sont largués.
Aujourd'hui, en psychiatrie, on met les gens dans des cases, d'après vous ?
Il me semble, oui. Bipolaire, TOC, schizophrène.
Et finalement, à chaque case, son traitement aussi, sa petite dose de médicaments.
Protocole.
Or, ces médicaments, pour vous, ils apportent quoi aujourd'hui pour le patient ?
L'anxiolytique est important, le somnifère est important, le neuroleptique, tous ces médicaments sont importants, mais pour moi, ils ne sont qu'une petite partie du traitement, ils sont une aide au traitement et non pas le traitement.
La camisole chimique, c'est quelque chose qui existe encore clairement aujourd'hui ?
Quand vous dites clairement, vous faites à la fois la question et la réponse, c'est-à-dire que je crois qu'elle n'a jamais été aussi inapparente et aussi réelle qu'elle ne l'est aujourd'hui, la camisole chimique. On titre les tas de journaux régulièrement tous les ans sur le fait que les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes au monde. Mais à part ça, la camisole chimique a disparu. Bon, elle est inapparente, mais elle est très opérante. Elle est très à l'œuvre. On souque la marmite, hein, la cocotte minute, on la souque, là. La pression, elle est de l'économique, du soi-disant économique, parce qu'on ne regarde pas les choses dans la durée, et elle est du côté de la science. Et la vérité, aujourd'hui, est une vérité scientifique. Sinon, il n'y a pas de vérité. Et ça, c'est une folie. Deux choses l'une. Ou bien on pense que la schizophrénie, pour prendre cet exemple-là, est une maladie génétique. Et à ce moment-là, le traitement va finir par le trouver. Ça va être un vaccin ou ça va être autre chose. Bon, à ce moment-là, tout le temps passé avec quelqu'un, à l'écouter, à élaborer, à penser avec lui, ça ne sert à rien. Ou bien on pense que c'est quelque chose d'une difficulté, d'un déséquilibre entre les différentes compositions, des différentes composantes de la trajectoire de quelqu'un. Et à ce moment-là, en effet, le traitement, il est plus d'ordre relationnel. Ce sont deux conceptions très différentes.
Christelle, c'était quoi ? Christelle, c'était quoi ? Donc quand on dit Christelle, 24 ans, inscrite à la NPE, pas forcément de projet, ben voilà, Christelle, elle se définit pas, quoi.
Tu me dis que t'as quand même un passage par un hôpital psy.
J'en garde quel souvenir ? Lamentable. Lamentable, c'est très déstabilisant. Moi, j'avais jamais connu ça. Ça ne convenait pas du tout, on végète. Ça a été l'enclave, en fait. Ça a été une enclave. Un truc où je voyais plus les gens. Enfin, j'étais là, moi, avec ma souffrance. Et à la limite, j'avais besoin de ça. Je ne pouvais pas la gérer à l'extérieur.
T'en es ressorti plus fort ou pas ?
En tout cas, j'étais sûre que je ne voulais pas y retourner. Donc, je me suis battue pour ne pas y retourner. Pour rester maître de moi, même.
Il
Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit: vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça, ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres on se réunira, voilà ce qui arrivera. En ayant marre d'être cocu, tous les exclus de la galette, on viendra reprendre notre dû, cette fois c'est vous qui aurez les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution, des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous refoutre un beau chahut. Et on s'en ira pique-niquer sur les belles pelouses de l'Élysée. Et ce jour-là, planquer l'artiche, il fera pas bon être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous.
La psychiatrie, il a fallu le drame de Pau au mois de décembre pour que soudain on s'intéresse à nouveau à la psychiatrie, qu'on découvre qu'on avait fait disparaître la psychiatrie des préoccupations de nos vies, ça avait disparu. Voilà pourquoi ces émissions, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui avec le docteur Lemasson, le psychiatre Michel Lemasson, de cette association qui à Bordeaux essaye de faire une autre psychiatrie, ou du moins une psychiatrie telle qu'on l'avait envisagée au début des années 70, un peu. C'est-à-dire que on disait autrefois c'était l'aliénation, l'enfermement, les murs, et bien maintenant on abat les murs et on essaye par le dialogue, par la parole, d'aller retrouver quelque chose. On sait pas exactement quoi, bien évidemment, même si on n'est pas quand même pas entièrement démuni de réflexion, de travail, d'approche, etc. Mais en tout cas, la médicalisation pour des psychiatres comme Michel Lemasson, et pour beaucoup beaucoup d'autres d'ailleurs, a remplacé l'aliénation d'autrefois, a remplacé les murs et la vérité scientifique, dit-il radicalement, là est une folie.
On n'a pas le temps, on prend pas le temps, et oui, on ne donne pas le temps, parce que bon, on a des échelles d'évaluation qui ne dépassent pas quelques semaines ou quelques mois. Alors que bon, l'histoire de quelqu'un se construit, elle est le produit de plusieurs années, et elle se construit, elle se reconstruit aussi sur plusieurs années. Jouer la continuité, mais la continuité des liens, des comptes des liens interpersonnels. C'est pas les médicaments qui assurent la continuité, c'est pas les dossiers qui assurent la continuité, c'est les personnes qui assurent la continuité. On a très régulièrement, très souvent, des gens qui mettent des mois après reviennent nous voir, qui des années après nous donnent des nouvelles. Et ça, c'est extrêmement précieux.
Et l'hôpital psy ne remplit plus cette fonction aujourd'hui?
Je crois qu'elle ne la remplit plus, et mais parce que ça n'est plus son objectif de le remplir. Je crois que c'est un objectif médical, je suis un peu subversif de dire ça, mais là, il faudrait repartir sur une histoire un peu longue, qui est l'histoire de la psychiatrie. Ah, la psychiatrie est née d'une invention, enfin, une fabrication relativement récente, hein, qui a à peine un petit peu plus d'un siècle. Au départ, elle est partie du giron médical, à tel point que jusqu'en 72, si je ne me trompe pas, il était question, enfin, les psychiatres étaient d'abord neuropsychiatres. Les formations étaient des formations de neurologie. 72, c'est séparation entre neurologie et psychiatrie. Je crois que c'est important, que ça indique bien des choses. Bon, et la psychiatrie sort à ce moment-là du giron médical pour aller au carrefour des sciences humaines, rencontrer des sociologues, des philosophes, bon, c'est une période très faste, les années 75, 80, Et puis, depuis, je sais pas si c'est 10 ans ou 15 ans, il y a un retour en force du côté de la démarche médicale, c'est-à-dire signe, diagnostic, traitement, qui est, à mon avis, totalement inadapté à la subjectivité humaine et à la santé mentale.
Je reviens aux années 70, à tous ces rêves qu'il y avait à cette époque-là. C'était quoi ces espoirs?
Je crois que c'était pas seulement un espoir, je crois que c'était une réalité, c'est-à-dire que, bon, la notion d'humain avait droit de cité, qu'il y avait un équilibre possible entre social et culture, et que, bon, la santé était le produit de cet équilibre. Ah. Moi, je crois que c'était pas du tout délirant. Je crois que c'était une réalité, c'était pas seulement un rêve. Je crois qu'on a réussi, il y a tout un ensemble de choses qui se sont réussies dans ces années-là. Azaïs, il naît un petit peu de ça aussi.
Monsieur Foucault, le fou a-t-il évolué dans l'histoire des sociétés?
Oui, il a évolué, il n'a pas cessé d'évoluer, et à notre époque, je crois que nous appartenons, enfin notre culture, est une culture dans laquelle tout le phénomène de la folie a été confisqué par la médecine. Pour nous, un fou, c'est un malade mental. Or, cela n'a pas été vrai de tout temps. Le fou, au XVIIe et au XVIIIe siècle, n'était pas un malade mental, c'était avant tout un asocial. Cela a changé lorsque on s'est aperçu que ces grandes institutions où l'on enfermait les fous avec tous les oisifs, tous les pauvres, tous les mendiants, tous les vagabonds, avec les libertins, avec les homosexuels, avec les prostituées, etc., ne correspondaient au fond à aucune utilité véritable. On s'est aperçu qu'elles coûtaient de l'argent, qu'elle retirait de la circulation une main-d'œuvre qui était utilisable. Alors, à partir de ce moment-là, on a supprimé ces institutions, ou plutôt, on en a chassé tous ceux qui n'étaient pas fous. Et maintenant, les fous occupent les asiles, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant les seuls à résider dans ces lieux d'internement qui avaient été aménagés pour bien d'autres au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Non, ça date pas d'hier, ce discours, ces paroles de Michel Foucault, ça date de 1961. À l'époque, Foucault préfigurait ce qui allait devenir ce mouvement et ces idées dont Michel Lemasson est encore porteur et beaucoup d'autres psychiatres et soignants avec lui, un autre rapport à la folie. Et puis, cette période qui, pour Lemasson, n'était pas du tout une utopie, mais une réalité, eh bien, aujourd'hui, a été ensevelie, recouverte par ses préoccupations, par cette domination mercantile dont Foucault parlait lui aussi.
Décembre, le drame de Pau, c'est une sorte de coup de pistolet hein, dans un paysage, quand même, on l'a dit, hein, assez léthargique, ou un moment où la psychiatrie ne fait plus tellement débat.
Oui. Oui, tout à fait.
Coup de pistolet ou coup d'épée dans l'eau?
Bon, retombera-t-il comme un soufflet? Ça, on est trop tôt pour le dire. Mais j'espère qu'il ne retombera pas.
Qu'est-ce que ce drame, en décembre dernier, a révélé?
Un très profond malaise de la psychiatrie. C'est dramatique que ce soit à ce prix-là, mais au moins si ça permet de mettre sur la table la question de la santé mentale et d'ouvrir ce débat, je crois que c'est une chance. Je crois pas que ça soit une histoire de milliards d'euros seulement. C'est vrai qu'il y a une notion de coût, il faut pas le nier, mais je crois que c'est une question d'intention, c'est une question de conception d'abord. On est peut-être au bord d'un vrai débat à ce sujet-là. Je crois que les choses, elles sont fabriquées comme on les fabrique. C'est-à-dire que, bon, par rapport à une évaluation, on travaille sur des files actives. Files actives, c'est-à-dire le nombre de patients et le nombre de personnes que l'on reçoit dans une année. Un nouveau malade, c'est une aubaine. Peu importe si l'année précédente, il a été hospitalisé dans le service d'à côté. Bon, et là, on fabrique de la discontinuité. Pourquoi ? Parce que l'échelle de valeur, c'est l'année. Ou l'échelle de valeur, c'est les 3 mois. Bon. Alors que si on suivait l'histoire de quelqu'un, on s'apercevrait que très souvent, il quitte un hôpital pour passer dans un autre, qu'il quitte un hôpital pour passer dans un service social, et ainsi de suite. Alors au total, est-ce que ça coûte moins cher ? Non, ça coûte beaucoup plus cher. Bien sûr qu'on nous demande d'être rentable et de justifier combien de personnes on voit, combien de bon, alors, les résultats en santé mentale, comment peut-on les apprécier? C'est très difficile. On a d'un côté des gens qui sont, enfin, des gens. On a des questions de subjectivité et il faut qu'on objective les résultats. Il y a quelque chose d'un passage qui va pas. Alors soit on se soucie de la subjectivité et on y reste, ou alors on passe à l'objectivité, et à ce moment-là, il faut que la subjectivité rentre dans cette objectivité. Et là, il y a un problème. Donc, si c'est le problème actuel.
Si je comprends bien aujourd'hui, produire de l'humain, produire de la convivialité, c'est improductif, quelque part.
C'est vrai qu'on a un problème de ce côté-là.
Le vieux pavé dans la rue.
Ah ouais, c'est
le vieux, vieux Bordeaux.
Premier étage.
Ah, spaghetti, vous avez fait au déjeuner.
Comment vous savez?
Ouais, ouais. On se met là, non?
J'avais quand même peur d'aller dans la rue. Je me sentais mal, j'étais tellement mal dans mes baskets que je pensais que les gens le voyaient, quoi. Puis je pense que ça devait se voir. Enfin bref, c'était la traversée du désert, certains disent ça, pour aller plus vite. C'est venu à un moment donné, à la suite, peut-être qu'il faut attacher ça à la suite des échecs professionnels qui ont fait que j'ai basculé un peu dans la dépression, quoi. Enfin, je crois que c'était... J'ai fait mécanicien. Au départ, j'étais mécanicien. Et après, j'ai fait un tas de travail. Alors là, les bandes blanches sur la route, en passant par les vendanges. J'ai fait un peu tout. J'ai compté 27 entreprises. Et la dernière entreprise que j'ai fait, c'était au wagon postaux, comme mécanicien. Donc, c'était un peu dans ma branche. De la gare Saint-Jean à Bordeaux. Quand j'étais licencié au wagon postaux, ça a déclenché, le travail me permettait encore de me maintenir, à un certain niveau. Le fait d'avoir été licencié, ça m'a basculé complètement. J'étais licencié en 93. C'était licencié par tranche, comme ça. Ils en sortaient un, deux chaque année, ou tous les 6 mois, ils sortaient. Enfin, on savait que ça allait disparaître. Les wagons postaux, d'ailleurs, n'existent plus. Un an après que je suis parti, la boîte a fermé. Je me suis trouvé désœuvré un peu. Je savais plus quoi faire de mon temps. J'étais assez mal. Pour chercher du travail, je savais pas me vendre. Je savais pas trop. J'étais mal. J'avais déjà un mal-être assez important. En plus, aller chercher du travail, bon, j'ai tenu 3 mois, quoi. Tant de pauvreté, tant de choses qui sont importantes pour les gens. On n'en tient pas compte. Comment ça se fait qu'on les balaye? Je comprends pas. Que le pognon est devenu une espèce d'atout où tout le monde est braqué là-dessus, sur le fric, quoi. Il n'y a que le fric qui compte. Oui, l'argent a pris la place de l'humain. Voilà ce que ça donne. La société peut aider ou peut démolir.
Voilà, tout est dit en quelques mots avec Pierre. C'est toujours extraordinaire, cette lucidité des cabossés entre guillemets sur eux-mêmes, et ce qui arrive à cette lucidité évidemment nous éclaire sur nous tous, tout simplement. C'est le cas de Daniel.
Faut pas déconner non plus. Non, c'est pas la société, elle a fait son boulot de société, elle a continué sa route, mais c'est toi qui démolis les choses, c'est pas la société, je crois pas, effectivement elle t'aide pas, attention, hein. Je pense que tu as voulu un petit peu ta galère.
C'est ça pour toi le début de la reconstruction, c'est refuser cet état de victime.
Voilà, ça en fait partie. Refuser l'état de victime, refuser la culpabilité, quoi. Je veux dire, ça s'est fait comme ça. Voilà. Bon. Quand la rupture avec la famille s'entérine, quand déjà t'as perdu le boulot, t'as perdu. Tout s'enchaîne après, hein, je veux dire. Enfin, on en est en grande partie responsable, hein, faut pas déconner non plus. Non, c'est pas la société, elle a fait son boulot de société, elle a continué sa route. Mais c'est toi qui démolis les choses, c'est pas la société, je crois pas. Effectivement, elle t'aide pas. Attention, hein. Je pense que t'as voulu un petit peu ta galère.
C'est ça pour toi le début de la reconstruction, c'est refuser cet état de victime.
Voilà, ça en fait partie. Refuser l'état de victime, refuser la culpabilité, quoi. Je veux dire, ça s'est fait comme ça, voilà. Bon. Le creux de la vague, c'est l'abandon de soi, je crois. Enfin, l'abandon de ses envies, l'abandon de ses rêves, l'abandon de ses... L'abandon de désir, pratiquement. Tout ça, ça fait un grand vide. T'as plus envie, un jour, t'as plus envie. Tu lâches prise, et puis voilà. Tu laisses tout tomber. Je me sens... pauvre. Pas pour autant marginal. Je crois que je suis bien en phase avec mon entourage social, quoi, finalement. On essaye d'interpeller les gens aussi, de faire passer ce message qu'ils n'écoutent pas, justement, qu'ils veulent toujours pas écouter, d'ailleurs. On leur a dit que c'était pas leur problème, quoi. Finalement, on a fait des instituts sociaux qui sont là pour ça. Donc, à partir de là, ils sont légitimement en droit de se dire qu'ils se démerdent. Donc, l'hôpital psychiatrique, qui est très, très médicalisé maintenant, qui, oui, on a l'impression qu'il sert de planque, quoi. Un cache-misère, un cache-souffrance... cache tout ça. Ça sert à protéger les gens de la folie.
Toi, t'as jamais été en hôpital psy, hein?
Non, j'ai réussi à éviter ça. Mais j'aurais pu, je veux dire, c'est des accidents qui arrivent. Ça, je connais des gens très bien qui ont fait un séjour là-bas parce que ça n'est pas du tout, quoi. Bon. La rue est bourrée de gens quand même qui ont des problèmes psychiques assez importants à résoudre. Ces problèmes psychiques, je crois, ont pas été générés par la rue, mais ont été nettement accentués par la rue. C'est l'isolement, je crois, parce que c'est toujours un petit peu isolé. Enfin, c'est très isolant, c'est très humiliant, surtout par le regard des autres. Je pense, hein.
J'ai une question aussi sur la folie. Est-ce que la société accepte ces fous aujourd'hui?
Elle ne les accepte pas plus qu'il y a que de tout temps, jamais. La folie est par définition quelque chose qui interroge, qui dérange. C'est d'une certaine manière un miroir d'une société. Ce qui fait que la société, la folie évolue, ou les signes de la folie évoluent comme une société évolue. Problème fondateur de la psychanalyse qui est l'hystérie. La manifestation de l'hystérie au début du siècle dernier et sa disparition officielle aujourd'hui sont tout à fait en miroir de l'évolution de la société, des connaissances de cette société à ces périodes-là. Il y a une espèce de parallèle. Donc on est dans une culture aujourd'hui qui essaye de désacraliser quelque chose comme ça de la folie, en même temps qu'elle produit exactement l'inverse. On n'a jamais été aussi excluant peut-être qu'on ne l'est aujourd'hui. Elle fait très peur, en même temps qu'on essaye de se rassurer en disant c'est une maladie comme une autre. C'est pas une maladie comme une autre. Il y a autant de psychisme humain ou de relation avec son psychisme qu'il y a d'humain. Personne n'est à l'abri d'une souffrance plus ou moins durable et d'une souffrance qui pourrait tourner à la pathologie à un moment donné. Je crois que personne n'en est à l'abri. Tout dépend aussi de la place que l'on peut avoir dans sa société, dans son histoire. Et on est dans une société qui est plus menaçante pour l'individu.
Et vous dites que les gens qui viennent ici en ont marre d'être traités comme des sacs poubelles. C'est le cas aujourd'hui? La société les traite comme tels?
Tout à fait. Mais en tout cas, comme des matricules. C'est-à-dire qu'on a tendance à réduire quelqu'un à son problème, à son symptôme même.
Et en même temps, vous m'avez aussi dit que eux ont tendance à s'identifier avec ça, non?
Absolument. Quelle autre possibilité? Parce qu'il faut bien une identité. Vous utilisez le terme d'identifier, il faut bien avoir une identité. Il s'agit de leur permettre de l'habiter, d'en faire quelque chose.
Est-ce que s'il y avait plus de paroles et moins de médicaments, la folie reculerait?
Je pense que oui. L'une des paroles que j'ai entendues ces derniers mois qui m'a le plus frappé, c'était être exclu, c'est quand on n'a plus la parole. Si on veut bien y prêter attention, ça veut dire beaucoup de choses.
Merci à tous, merci à Michel Lemasson, merci aux responsables et animateurs d'Assaïs, cette association bordelaise qui a un site, figurez-vous, www.assaïs-icar.org. Assaïs, c'est écrit A-S-A-I-S. Je recommence, site www.assaïs-icar.org. Org. Merci à tous, merci également à Daniel, à Pierre, à Otman, à Christelle et à Marie-Edith. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. L'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert et Raphaël Moutert. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Le numéro du répondeur, vous le connaissiez, mais je vous le répète, c'est le 01 56 40 37 37. Demain, eh ben, à partir de demain, on est à Marseille et on va suivre Leïla et ses deux rabbins. Leïla Chaïd avec Dominique Vidal et Michel Warchavski à la rencontre des jeunes des quartiers de Marseille, de Gardanne et d'Aix-en-Provence. On vous racontera tout ça à partir de demain. Dans 1 minute 34, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. À demain, 17h. Salut.